compagnie de Julie Bourges. Bonjour Julie.
Bonjour.
Nous venons d'assister à votre conférence où il y avait beaucoup de monde dans l'auditorium. Je rappelle que je suis justement à la 3e édition des salons bio et bien-être organisés par Viribio au Palais des Congrès de Tours. Le sujet de votre conférence, Dépassement de soi, un chemin vers le bien-être. Vous pouvez nous parler de votre histoire ?
Super. Eh bien, à 16 ans, j'ai eu un terrible accident et j'ai été brûlée sur 40% du corps au 3e degré. À la suite de mon costume de carnaval qui a pris feu sur moi en fumant une cigarette. S'en est suivi 3 mois de coma artificiel et une bonne année de rééducation. Voilà l'histoire.
Alors nous avons pu voir lors de cette conférence quelques photos, hein. Bien évidemment que vous avez choisi ces cicatrices qui vous restent aujourd'hui. On peut porter un regard peut-être difficile ou en tout cas difficilement supportable pour vous à l'époque, plus maintenant puisque vous avez dépassé tout ça, mais vous allez nous dire justement sur ce chemin qui vous a fait progresser par rapport à l'accident. Alors, il y a quelque chose que j'ai bien écouté, c'est qu'en fait, votre accident est arrivé, mais vous étiez déjà une gymnaste de haut niveau, ce qui fait que vous aviez déjà du potentiel, vous aviez certainement une volonté d'en faire pour vous sortir de là.
Exactement. Je peux pas. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Vraiment, vous avez bien écouté ma conférence.
Oui,
mais vraiment, le sport a été très salvateur pour moi et m'a sauvé la vie, clairement. Et je pense que sans la gym, j'aurais pas eu ce mental-là aussi pour m'en sortir.
Il y a un élément aussi qui est très important, notamment la gym, mais aussi les parents, les proches qui ont été là, puisque vous avez dit tout à l'heure, 3 mois dans le coma. Néanmoins, vous les entendez. C'était un coma qui avait été programmé, hein. Mais vous les entendiez, vos proches. Et l'amour de votre famille, parce qu'en fait, vous étiez hospitalisée à Toulon, comme vous disiez, et puis la famille habitait à Nice, et tous les jours, ils étaient présents. Vous avez senti cet amour et vous avez envie de vous battre et de sortir de ce problème, en fait, de brûlure sur 40% de votre corps.
Exactement. Sans mes proches, c'est un peu comme le sport en vrai, hein, mais c'est des choses qui m'ont sauvé la vie et l'amour de mes proches... m'a donné envie d'aimer la vie à nouveau et à aucun moment j'ai eu envie d'abandonner parce que j'étais trop entourée et trop aimée pour abandonner et pour baisser les bras. J'avais envie de montrer à mes parents qu'ils avaient eu raison de faire autant d'allers-retours, qu'ils avaient eu raison de me donner leur temps, d'arrêter de travailler, d'être là pour moi tous les jours, de se sacrifier, entre guillemets, de mettre entre parenthèses une partie de leur vie pour leur fille. Je voulais leur montrer qu'ils n'ont jamais eu tort de le faire et aujourd'hui je sais qu'ils sont très fiers de moi.
C'est déjà bien d'avoir, parce que vous aviez 16, 17 ans à cette époque-là, et d'avoir ce raisonnement et cette reconnaissance vis-à-vis de ce qu'ont fait vos parents. C'est génial, ça. Votre combat, bien évidemment, pour retrouver cette féminité, expliquez-nous par quel réseau, comment ça s'est passé ?
On le doit à beaucoup de gens, hein ? On le doit à Instagram, pour de vrai. C'était un réseau qui marchait un petit peu, pas plus que ça à l'époque d'ailleurs, mais je sais pas pourquoi Instagram et pas Facebook. Voilà, Instagram, j'aimais bien la manière que ça avait de fonctionner, de publier des photos comme un peu un journal intime, en fait, en photo. Et j'ai fait le choix d'en parler, j'ai fait le choix de raconter mon accident parce que j'avais beaucoup de regards dans la rue et je comprenais pas trop pourquoi on me regardait, donc j'ai fait le pari risqué de croire que les réseaux sociaux, ça pouvait être bon. Et pas aussi négatif que ce qu'on peut le dire, que ce qu'on peut en penser. Et j'ai eu raison parce que ça a été un gros cercle vertueux. On m'a donné beaucoup de retours positifs, on m'a dit « mais il faut que tu continues, il faut que tu t'acceptes ». Et quand j'ai vu tous ces retours positifs et quand j'ai compris que j'aidais les autres grâce à mon histoire, j'ai eu un vrai déclic et je me suis dit « il faut que je continue et que j'aille plus loin ».
C'était une première façon par les réseaux sociaux de montrer votre corps, ses brûlures, d'oser vous montrer tel que vous étiez, alors que en fait dans la réalité vous étiez avec des cache-cols, des manches longues, etc. Ça a été un premier pas, les réseaux sociaux, pour vous accepter ?
Ah oui, clairement. Je sais pas, c'est comme si je me sentais protégée derrière l'écran, protégée derrière toutes ces personnes qui me suivaient pour ce qui m'était arrivé. Le fait d'avoir des personnes qui connaissaient l'histoire, ça me permettait de me montrer, contrairement à dans la rue où les gens ne me connaissent pas.
Et ça vous a permis de vous accepter tel que vous êtes, tel que vous étiez il y a quelques années et tel que vous êtes maintenant. Et vous osez toujours, vous continuez sur les réseaux sociaux à donner votre expérience, à faire des photos. Dans quel but, du coup, Julie ?
Dans beaucoup de buts. Dans beaucoup de buts. Déjà pour soutenir les Grands Brûlés. Déjà pour montrer que les Grands Brûlés existent. Pour nous faire sortir un peu de sous la terre. Hein, voilà, pour montrer que oui, les Grands Brûlés, c'est quelque chose de normal. Ça arrive à tout le monde de se brûler. Ça arrive à tout le monde d'avoir des cicatrices par le feu, par l'huile, par l'eau chaude, etc. Et c'est quelque chose qu'il faut démocratiser. Comme on démocratise aujourd'hui la trisomie des handicapés, la paralysie, les amputations, etc. Donc ça, c'était... En fait, mon premier combat, et ça l'est encore. Mais aujourd'hui, j'ai élargi aussi mon message à la femme. J'ai élargi mon message à la femme parce que moi, à 16 ans, quand je me suis retrouvée brûlée, j'avais aucune femme à qui m'identifier. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les femmes que je voyais à la télé, dans les magazines, elles étaient photoshopées, la peau parfaitement lisse, elles faisaient une taille 34, des jambes super fines. Et en fait, ça me faisait complexer de voir ces femmes. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la réalité, c'est pas vrai. En fait, à 16 ans, j'ai eu cette réflexion-là et je me suis dit, mais... On croise pas des femmes comme ça dans la rue. Oui, on croise des femmes qui sont jolies, mais on a toutes nos petites imperfections. On a toutes des taches sur la peau, des cicatrices, de la vergeture, de la cellulite. Et du coup, j'ai élargi ce message-là et j'ai voulu juste montrer que c'est pas parce que on a des pseudo-imperfections que la société nous a imposées qu'il faut pas qu'on s'accepte et qu'on s'aime.
C'est ce que vous avez dit, que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement ne pas faire attention au regard de l'autre ou mal interpréter. Vous avez donné un exemple qui était très parlant, hein, où vous avez vécu dans votre âme, enfin, un regard d'un homme. Vous avez bien expliqué ça. Et effectivement, on ne sait jamais ce que l'autre pense quand il vous regarde avec cette intensité que vous avez connue.
Bah, c'est vrai que quand quelqu'un nous regarde dans la rue, directement, on va focaliser sur notre défaut, sur ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc forcément, moi qui suis brûlée sur 40% du corps, j'ai focalisé directement sur mes cicatrices quand un inconnu me regarde dans la rue. Mais peut-être que cet inconnu ne me regarde pas parce que je suis brûlée, peut-être qu'il me regarde parce que je suis blonde, peut-être qu'il me regarde parce qu'il aime bien mes yeux bleus, peut-être qu'il me regarde parce qu'il aime bien comment je suis habillée, ou pas du tout, peu importe, mais on ne peut jamais savoir.
Aujourd'hui, c'est un déferlement médiatique puisque vous êtes passé plusieurs fois dans des émissions de la télévision, toujours pour démontrer certainement ce que vous êtes, votre combat pour d'autres femmes ou des hommes, peut-être aussi des grands brûlés. Finalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans la rue, comme vous disiez tout à l'heure. On voit des handicapés, mais on ne voit pas les grands brûlés. Et Dieu sait, moi j'en ai connu personnellement, c'est qu'à l'époque, les grands brûlés, la plupart, on les met dans cette combinaison compressive, gants, chaussettes, bonnets, compris qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il y a 40 degrés dehors, c'était tout à fait... Et vous, finalement, votre volonté a dit « mon corps refuse ». Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire.
En fait, j'avais 16 ans. J'étais déjà brûlée, j'étais déjà différente, j'étais chauve, on m'avait rasé la tête. Mes cheveux, ils étaient... Enfin, j'avais plus de cheveux, mais quand mes cheveux ont repoussé, ils étaient ternes, ils étaient même plus blonds. Il n'y a rien de la jeune fille que j'étais quand je me suis réveillée que je connaissais, que je reconnaissais. Et quand en plus de ça, on m'a dit, il va falloir que tu mettes une minerve et des vêtements compressifs pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le seul moment où t'enlèveras cette combinaison, ça sera pour aller te doucher... Excusez-moi le terme, mais j'ai dit non merci. Et j'ai dit non merci, j'ai dit mon corps n'en a pas besoin. Je le savais, en fait, je me suis juste écoutée. Et je pense que la gym m'a aidée aussi à savoir écouter son corps. Et ce qui était dingue, ça j'en ai pas parlé à la conférence, donc c'est une exclusivité. Mais quand 6 mois après j'ai revu mon chirurgien, il m'a dit... Bravo, tu as bien mis les vêtements compressifs. Et je lui ai dit, je ne les ai jamais mis. Et en fait, mon corps avait évolué seul parce que je le voulais. Parce que je lui avais dit on va guérir et parce que j'avais fait du sport à côté. Et il m'a dit, vous avez fait la meilleure rééducation qui soit. Vous avez fait une rééducation par le sport et il n'y a rien de mieux.
Et là aussi, on peut peut-être rejoindre M. Ballesteros, qui était en conférence ce matin et qui parle de l'auto-guérison du corps et de cette volonté. Et c'est très important et vous en êtes un parfait témoignage. Est-ce que vous voulez rajouter, avant que vous repreniez, puisque vous êtes de Nice, vous allez repartir, reprendre le train, est-ce que vous voulez laisser un message aux auditeurs d'RFL 101 ?
Si j'avais un petit message là à laisser, c'est que si vous m'écoutez, que vous vous sentez un peu visé, que ça vous donne de l'espoir, écoutez-vous. Et sachez que la vie vaut la peine d'être vécue, même si des fois on a l'impression qu'elle est injuste. Voilà, la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Et quel que soit le combat, quelle que soit votre histoire, vous avez la capacité de relever la tête et d'aller de l'avant, et ça dépend que de vous.
plus peut-être de motivation dans ces cas-là, on peut peut-être aller sur vos sites, voir un peu toutes ces vidéos, tout ce que vous pouvez témoigner, les photos en même temps, qui sont porteuses d'espoir aux personnes qui sont... Mais même à la limite, pas que les personnes qui sont blessées dans leur chair, il y a certainement des messages que l'on prend en tant que femme. On parlait tout à l'heure des regards, d'un regard... Il y en a pour tout le monde. On prend chacune, chaque personne prend ce qu'elle a envie de prendre. Je vous laisse rejoindre peut-être d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie, Julie. Juste peut-être pour terminer, que faites-vous aujourd'hui? Vous avez 22 ans. Que faites-vous hormis ces conférences et ces témoignages dans la vie? Est-ce que vous continuez le sport?
Oui, je continue le sport, évidemment, et après, je vis complètement de mes réseaux, donc les conférences, les événements postés sur Instagram, sur YouTube, ça fait partie de mon quotidien et je vis de ça, travaillant notamment avec des marques. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc c'est Instagram et YouTube, et c'est 12 février, la date de mon accident, tout en lettres.
Julie, je vous remercie pour ce fabuleux témoignage. Au revoir.